je tiens à vous remercier, à remercier Claude Schenker de m'avoir invité, et surtout de m'avoir invité à parler après Charles Morero, Monseigneur maintenant, qui a eu une grande influence dans ma formation. Je lui dois une de mes plus importantes, comment dire, illuminations intellectuelles. J'étais venu comme ça, assister à une conférence au Sacré-Cœur, à Montmartre, dans un colloque, et puis voilà. Et puis, alors cette intuition, d'ailleurs, je peux vous dire, c'est le fait qu'il n'y a pas de concurrence entre le créateur et la créature. C'est un thème qui l'a beaucoup marqué et qui a vraiment... Qu'il a analysé beaucoup, notamment dans la question de la théologie protestante. C'est ce que vous trouverez d'ailleurs dans son très beau livre sur œcuménisme et philosophie. Voilà, donc c'est pour moi un honneur que de parler après lui, que, disons, le disciple, sous une certaine façon, parle après le maître. Voilà, c'est une grâce. Avec en plus la présence angélique, tutélaire de mon ami David Macaire, comme ça... Donc c'est une situation exceptionnelle pour moi. On m'a demandé de parler de la porte de la foi. Enfin, on m'a proposé plusieurs sujets, alors j'ai repris ce mot « porte de la foi ». Vous savez hein, que le texte qui annonce l'année de la foi s'intitule « Porte de la foi, porta fidei ». Et donc... Je me suis dit que c'était un beau sujet. En quoi la foi est une porte? À quoi est-elle une porte? Et la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'une porte peut aussi être fermée. La porte est soit ouverte, soit fermée. La porte n'est pas qu'un simple passage. On aurait pu dire le passage de la foi. Et puis dès qu'il y a foi, eh bien ça y est, on passe. Mais là, il y a la porte et elle pourrait être fermée. Alors, quand je parle de la porte fermée, ça ne veut pas dire que je parle de l'athéisme, puisque si vous êtes un athée de bonne foi, ce qui peut exister, hein, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose vous croyez que Dieu n'existe pas, vous savez que l'existence de Dieu est quand même en lien avec la raison, en principe... Une raison qui serait à plein régime, qui n'aurait pas de mauvaises habitudes, devrait arriver à l'idée que Dieu existe, à la certitude que Dieu existe. Donc là, forcément, quand quelqu'un dit qu'il est athée, bon, c'est qu'il est diminué d'une façon ou d'une autre. Et s'il est de bonne foi, c'est pas forcément d'ailleurs de sa faute. C'est simplement peut-être qu'il a de mauvaises habitudes intellectuelles. Je vous rappelle que ceux qui ont le plus de mal à entrer à sortir de ce qu'on appelle l'ignorance invincible, hein, c'est-à-dire une ignorance qu'on n'arrive pas à surmonter d'un simple acte de bonne volonté, hein, donc c'est pas leur faute, parce qu'ils ont été embrigadés, parce qu'ils ont des mauvais plis, ce sont les intellectuels. Vous voyez, quelqu'un de... Je me souviens, j'étais sorti d'une conférence un jour... donc avec des intellectuels. Et c'est vrai qu'avoir à parler de Dieu aujourd'hui, voyez, vu l'embrigadement généralisé parmi les philosophes, alors même que Platon, Aristote, Descartes, Hegel, Kant affirment l'existence de Dieu, vous voyez, que c'est un objet philosophique pour eux. Mais non, mais là, c'est, non, voilà. Nous sommes des philosophes, mais nous nous coupons de la tradition philosophique. Mais voilà, il faut pas. Donc, dès que vous avancez ce terme-là, il faut arrêter. Vous devez tout le temps vous justifier, expliquer pourquoi, etc. Bon, c'est pas du tout évident. Et sortant de cette conférence, je tombe sur des jeunes et puis je me mets sur un banc et puis je discute avec ces jeunes-là. C'était des jeunes plutôt type cité, vous voyez, banlieue. Sympathique, fort sympathique au demeurant. Je dis, mais vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Et le jeune me dit, bah oui. Il me dit, mais pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu? Et il me dit, ben, c'est normal, tu vois une fleur, tu crois en Dieu. Vous voyez, il était, d'une certaine façon, bien sûr, hein, après, il faut pouvoir l'expliquer, ça, pouvoir les démontrer, mais d'une certaine façon, l'intelligence, à l'état, je dirais, naïf, c'est-à-dire natif, peut avoir des affirmations de cette sorte, alors que quand vous êtes passé par l'université, vous voyez, vous créez des habitus intellectuels, des pentes intellectuelles, et à chaque fois que vous entendez le mot Dieu, vous voyez, vous sortez votre revolver, vous faites marcher votre petite machine, et puis vous ne pouvez plus l'entendre. Et voilà, donc c'est des formes d'embrigadement terribles, et c'est spécialement les intellectuels qui peuvent être des athées de bonne foi. Pas croire. Ils sont souvent plus, voilà, ils ont plus d'habitus de pli que les autres. Alors qu'une intelligence naïve, parfaitement ignare, je dirais, une page blanche, accueille plus facilement, voyez, ce discours. Alors c'est pas de l'athéisme dont je parle, c'est vraiment les portes de la foi, mais fermées. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine forme de foi. Et ce sont même des portes, un peu comme celles des toilettes, fermées de l'intérieur. Parce que il existe, vous savez, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'intitule « La foi des démons ». Donc on peut avoir la foi, en tout cas une certaine forme de foi, et fermer complètement la porte. Précisément. Celui qui dit que les portes de l'enfer, vous savez, c'est très intéressant sur les questions de portes, hein, mais chez Dante, il n'y a pas de porte au paradis. Et c'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve chez Catherine de Gênes. Elle dit dans son traité du purgatoire, le paradis n'a pas de porte, y entre qui veut. Ben, le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne veulent pas. Et donc, ils se construisent une porte massive. D'ailleurs, chez Dante, hein, la porte de l'enfer. Et C.S. Lewis dit justement que les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont dedans qui ne veulent pas faire entrer Dieu. Vous vous souvenez, hein, l'Apocalypse, hein, qui dit « Voici que je suis à la porte et que je frappe celui qui m'ouvre ». Donc, ça veut dire qu'il y a certains qui n'ouvrent pas. Et c'est ça l'enfer. Et bien, Dieu n'exclut personne. C'est une auto-exclusion. C'est bon, on a créé une petite demeure, vous voyez, à soi, dans laquelle, au moins, on est le premier, on règne, on est dans sa sphère. Même si cette sphère est factice, vous voyez, on préfère être le premier dans sa sphère factice plutôt que d'être un parmi d'autres dans le royaume. Alors, ça signifie qu'il y a une foi des démons, une foi, une porte de la foi fermée, et verrouillée, cadenassée de l'intérieur. Et cette foi, on la voit s'exprimer. D'ailleurs, bon, il y a le lieu de l'épître de Jacques, hein, qui dit « Ah oui, tu crois à la bonne heure, les démons croient aussi et ils tremblent. » Voilà. C'est vraiment parler de foi. Et puis, il y a ces passages dans l'Évangile, notamment, enfin partout, hein, mais chez Marc, c'est très significatif. Puisque c'est le tout début, c'est organisé autour de ce thème-là, même l'incrédulité des disciples d'un côté, et de l'autre côté la foi des démons chez Marc. C'est assez étrange. Le disciple est plutôt incrédule, à chaque fois il se fait... Enfin, le Christ dit, mais comment ça se fait, vous n'avez pas encore la foi jusqu'à la fin, parce que jusqu'au dernier verset de cet évangile de Marc. Et alors que, dès le départ, et les démons arrivent, il arrive à Capharnaüm, hein, et puis il y a le démoniaque, et cette voix qui sort du démoniaque, qui dit « Je sais, toi, qui tu es, le Saint de Dieu. » Et après, on nous raconte que Jésus faisait des guérisons dans la ville et qu'il faisait taire les démons, car il savait qui il était. Il savait qu'il était le Messie, le Saint de Dieu. Et est-ce qu'il savait qu'il était Dieu? Ça, c'est une autre question disputée entre les théologiens. Mais en tout cas, qu'il était le Messie, ça c'est aucun doute. Donc il y a une certaine forme de foi qui est une foi démoniaque, une foi dont la porte est fermée. C'est une foi qui est, pourrait-on dire, de manière simple, sans amour. C'est une foi qui est une foi orgueilleuse. Les démons, en fait, voient les signes. D'ailleurs, quand ils entrent dans la synagogue de Capharnaüm, tout le monde voit qu'il y a quelque chose dans la manière d'être de Jésus, dans son discours, qui fait qu'il ne parle, qu'il a une autorité, qu'il parle avec autorité, pas comme les scribes. Donc imaginez un démon qui voit ça, avec son intelligence beaucoup plus déliée que la nôtre, un signe suffisant pour lui faire comprendre ce dont il s'agit. que ça n'est pas un homme comme les autres. Vous voyez, donc, et alors c'est ça qui est bien. Je sais moi qui tu es. C'est-à-dire qu'avec les signes, nous les signes, d'une certaine façon, que donne Jésus ne suffisent pas et à provoquer directement l'assentiment de notre intelligence. Mais un démon qui a une intelligence bien plus fine que la nôtre, il voit les signes et il a. Et alors il est fier parce que c'est du genre, ouais, j'ai trouvé. Et c'est comme quand vous êtes dans une enquête criminelle. Vous faites parler des témoins, des gangsters, et puis après vous avez le truc, ah ben c'est lui. C'est lui le criminel. C'est d'ailleurs plutôt ce mode de pensée. Hein. Tu es venu pour nous perdre, donc c'est plutôt l'ennemi, quoi, hein, le Christ. Hein. Vous voyez, et donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la foi, mais ce n'est pas complètement une foi. Hein, Thomas d'Aquin dit à propos de la foi des démons qu'on appelle cela de la foi, mais de manière équivoque. De manière équivoque. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, il s'agit presque plus d'une science du témoignage que d'une foi. Alors ça, c'est très important. Science du témoignage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez, science du témoignage, c'est ce que pratique justement l'enquêteur. Il fait parler une bande de criminels, et puis il voit comment les témoignages se recoupent, il arrive à retrouver, parce qu'il les fait parler séparément, vous savez, pour pas qu'ils s'en trouvent. Un peu comme dans le livre de Daniel, vous savez, quand Daniel interroge les deux vieillards séparément, et puis il voit que ça colle pas. Bon, bah c'est comme ça que, et à partir d'une sorte d'intelligence propre, et les signes qui nous sont donnés, on n'en induit que, voilà, il y a quelque chose qu'on ne voit pas directement. On ne voit pas directement, les démons ne voient pas qu'il est le Messie directement. Mais à partir des signes qui sont donnés, ils le comprennent. Et donc, c'est un acte vraiment qui n'engage pas leur cœur. C'est un acte qui concerne que leur intelligence. Alors que dans l'acte de foi, au sens complet du terme, il y a bien sûr l'intelligence, c'est pas un acte de crédulité aveugle, mais il y a à un moment le fait qu'on fait confiance au témoin, qu'on s'abandonne d'une certaine façon à un témoin. Dans un acte de foi, on croit quelque chose, mais on croit quelque chose à travers un témoin. Donc, on croit d'abord quelqu'un. Et vous voyez qu'il y a ces deux aspects, croire quelque chose, croire quelqu'un. Or, dans la foi des démons, si vous voulez, le quelque chose l'emporte sur le quelqu'un. C'est pas parce qu'ils s'abandonnent d'une certaine façon à Jésus qu'ils ont la foi. Au contraire, vous voyez, ils veulent surtout pas s'abandonner à lui. Mais c'est parce qu'ils ont vu des signes et qu'ils en induisent quelque chose. Donc ils croient quelque chose, ils croient ce qu'il est, ils disent qui il est, au moins partiellement, mais ils ne le croient pas lui, au sens où il s'abandonnerait, où il lui ferait confiance. Où il y aurait un acte du cœur, un acte d'humilité, un acte d'abandon. Dans ce cas-là, vous voyez, chez les démons, le savoir l'emporte d'une certaine façon sur la confiance, dans ce qu'on appelle la foi des démons. Ou si vous voulez, on pourrait dire aussi que le quelque chose l'emporte sur le quelqu'un, dans le croire ici, mais spécialement parce que, voilà, il croit quoi ? Il croit ce que dit Jésus. Donc il croit plus en une doctrine, en des valeurs, même si c'est pour les refuser. Et alors pour nous c'est assez inquiétant parce que, vous voyez, ça veut dire que si vous réduisez le christianisme à des valeurs ou à une doctrine supérieure, eh bien vous êtes tout proche de la foi des démons. Et là, ce qui est premier dans la foi, c'est de dire, je crois, non pas, alors c'est vrai que Monseigneur Charles Moreau a rappelé bon, que c'est beau de dire le credo comme ça. Qu'est-ce que vous croyez ? Mais en fait, le fondamental de la foi, c'est pas de dire « je crois en ceci, cela, cela ». D'ailleurs, la formule « en », c'est pas « je crois que », vous avez remarqué. « Je crois en », in plus accusatif, ça veut dire « je me tourne vers ». « Je crois en Dieu », c'est-à-dire en allant vers Dieu. Donc ce qui est premier, c'est de croire quelqu'un. Et que si quelqu'un vous dit « qu'est-ce que vous croyez ?», la manière la plus fondamentale de répondre, c'est de dire « je crois ce que dit celui-ci ». Ah oui, en fait, je crois ce que dit Jésus. Ma foi est d'abord en Jésus, vers le Christ. Et c'est à partir de cette foi dans le Christ que, vous voyez, tout le credo peut se dérouler. Mais ce n'est pas une série d'énoncés qu'il s'agit de défendre directement. Ces énoncés, nous les défendons parce qu'ils jaillissent à partir d'une relation vivante au Christ. Et c'est pour ça qu'un christianisme des valeurs, un christianisme qui serait purement doctrinal et qui s'absenterait de cette relation vivante, glisse vers le démoniaque, vers le pire. Et il vaut mieux être un athée de bonne foi que d'avoir cette foi-là. Et cette foi qui serait purement idéologique. Alors, essayons d'ouvrir un peu la porte maintenant. Voilà, je vous ai juste dit qu'est-ce que ça pouvait être une foi avec la porte fermée de l'intérieur. On sait ce qu'il y a derrière, mais on veut surtout pas que ça rentre. Voilà. On veut précisément ne pas ouvrir parce qu'on sait à quoi ça nous engage. On sait que ça exige quoi? L'abandon de notre cœur. Le fait que, voilà, on préfère entrer même dans cet abandon à quelque chose qui nous dépasse, qui est mystérieux, donc entrer dans une nuit d'amour plutôt que de, voyez, de se réfugier derrière nos petites clartés personnelles, intellectuelles. On ferme la porte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on commence à l'ouvrir? Alors, je voudrais dire deux choses, je vais essayer d'y réfléchir, par rapport à la modalité même de la foi, puis après par rapport à l'objet de la foi elle-même. Bien sûr, de la foi théologale, mais ça va me permettre, pour la modalité, d'abord de parler de la foi en général. Vous savez que l'acte de foi, c'est un acte qui existe aussi sous une autre modalité, enfin qui n'est pas surnaturel, mais qui existe aussi sous la forme naturelle. Nous ne cessons de poser des actes de foi. Il y a des choses que nous savons, par exemple, vous êtes venu ici en ayant confiance que, bon, sur le programme, sur ce que vous avez entendu dire de moi, que je n'étais pas un fou furieux qui allait, voyez, dire des choses complètement absurdes. Bon, et d'ailleurs, c'est à cause de cette confiance, peut-être, que j'ai essayé, moi, de travailler pour ne pas être trop absurde. Remarquez, hein. Je me rappelle, parce que, curieusement, n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un est déjà pleinement fiable, dans le cas de l'humanité, c'est comme ça, hein, qui est absolument pleinement fiable. Comme l'a dit hier Maggie de façon extraordinaire, je sais que n'importe quel homme, n'importe quelle créature peut me trahir, mais le seul qui ne peut pas me trahir, c'est Dieu. Et c'était très, très beau. Oui, est-ce que je suis absolument fiable? Non, mais parce que vous m'avez fait confiance, je travaille à l'être. Et souvent, comprendre que la confiance a quelque chose de créateur. Dire je ne te fais pas confiance parce que tu n'es pas fiable, c'est quelque chose qui ne marche pas complètement. Il y a un moment où aussi il faut faire confiance pour que l'autre, voyez, se sente tenu de devenir fiable. C'est quand on commence par faire confiance à un enfant, à un moment, il faut faire le pas et que lui, après, peut devenir fiable et responsable. D'accord ? Alors bien sûr, il y a des limites à cela. Il ne faut pas après tomber dans une sorte d'irresponsabilité et accorder sa confiance à n'importe qui, n'importe comment, bien sûr. Mais, vous voyez, il y a quand même ce pouvoir créateur de la confiance. Alors vous voyez, vous faites confiance, vous avez fait confiance, vous êtes venu dans cette salle, vous n'avez pas fait de sondage du sol ni du plafond pour être absolument sûr, de manière scientifique, qu'il ne va pas s'effondrer sur vous. Vous vivez dans la confiance. Et si à un seul moment vous vous arrêtiez d'être dans cette vie de confiance, qu'est-ce qui se passerait? Ben, ce serait vraiment dramatique parce que vous pourriez plus faire un pas. De certaine façon, il y a une sorte de foi naturelle, de confiance naturelle, qui est derrière le déploiement même de l'espace et du temps pour l'homme. Il y a de très belles pages du philosophe Gaston Bachelard là-dessus, sur le confiance et l'ouverture à l'espace. Et de fait, vous savez, le premier espace que nous avons connu, c'est un espace de confiance. Un espace, justement, où on était accueilli, recueilli, protégé. C'est précisément le sein de notre mère. Et c'est à partir de là, vous voyez, que se crée en nous une sorte de disposition fondamentale de confiance dans l'espace, de confiance naturelle. Vous voyez, c'est pas une confiance simplement poser un acte, mais il y a quelque chose qui est inscrit en nous. Nous croyons, hein, que voilà, on ne va pas spontanément, on croit que tout n'est pas que trahison, tout n'est pas que mensonge. On ne vit pas spontanément dans une sorte de défiance systématique. Si tel était le cas, vous voyez, on ne pourrait pas faire un pas, je vous dis. Comment être sûr, quand vous sortez dehors, bien, je ne sais pas, que le sol est fiable, que vous n'allez pas recevoir des projectiles sur la tête, qu'on ne va pas vous assassiner à un coin de rue. Et quand vous allez acheter votre nourriture, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait de vérification, de test, pour être sûr qu'il n'y avait pas de polonium dans votre meringue de gruyère? Vous croyez à la... Voilà la tradition de la meringue, de la gruyère, et donc vous avez une sorte d'assurance, de confiance. Si vous commenciez à dire maintenant je mange que si je fais des tests, vous voyez, ça supposerait que déjà vous testiez toute la partie de la meringue, vous voyez, vous dites, bon dans cette partie-là il n'y a pas de poison, mais peut-être dans l'autre partie. Donc à la fin, une fois que vous avez vérifié sur toute la meringue qu'il n'y a pas de poison, que vous pouvez la manger, il n'y a plus de meringue. Donc on est obligé de poser des actes de confiance. Et même si jamais vous vous dites « Ah bah je vais faire les meringues moi-même », qui sait si pendant la nuit on n'a pas empoisonné les poules? Et comment vous êtes sûr? Ça c'est un problème. Vous savez, c'est une remarque que je fais souvent. Le simple fait que nous ayons à dormir fait que nous sommes des êtres sociaux. Parce que c'est une remarque que fait Jean-Jacques Rousseau, vous savez, c'est l'année Rousseau, alors il faut que je fasse un petit couplet sur Rousseau. Puis en plus, bon, citoyen de Genève. Enfin bon, Genève, parce que c'est la Suisse. Mais il reste que Rousseau dit la chose suivante, il dit le fort n'est pas fort tout le temps, parce qu'à un moment il se fatigue, il devient faible, il faut qu'il dorme. Donc s'il veut être le plus fort tout le temps et terroriser les autres par sa force, mais il y a un moment où il s'endort, où il devient le plus faible, il devient vulnérable dans le sommeil. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit forcément s'associer à quelqu'un d'autre qui va monter la garde, moi, pendant qu'il dort. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Même le tyran dort. Et à ce moment-là, il est désarmé comme un petit enfant. Donc vous voyez, nous ne cessons de poser des actes de confiance, et cela montre quoi? Cela montre que... Déjà, dans sa modalité même, la confiance est au fondement de la vie sociale, de notre être social. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vie sociale possible. Et donc, la foi, d'une certaine façon, ouvre, c'est la porte, déjà la foi naturelle, mais la foi surnaturelle, en fait, à plus forte raison, ça nous fait entrer dans une forme de communion. Cela déploie notre être social. Ça, c'est la modalité même de la foi. Parce que je ne cherche pas simplement à voir par moi-même, je sais des choses, non pas parce que je les ai vues par moi-même, mais parce qu'un autre les a vues, un témoin. Et donc, ma capacité de connaissance s'étend à partir d'un lien social, voyez, qui est le fait que je crois au témoin, que je vis avec le témoin. Je suis dans une sorte de solidarité, de destin, de connaissance avec un témoin qui, lui, a vu. Donc, vous voyez, dans sa modalité même, la foi déploie la vie sociale. Mais la deuxième chose, c'est que la foi déploie aussi la vie intellectuelle et la vie scientifique, dans sa modalité même. Bien sûr que la science en soi se distingue de la foi. Croire, ça n'est pas voir. Quand vous êtes dans le domaine scientifique, vous êtes capable de démontrer, et donc vous voyez par vous-même quelque chose. Vous voyez, c'est le théorème de Pythagore, vous le possédez sur un mode scientifique, pas simplement parce que vous croyez qu'il est valide, parce que le professeur l'a dit, mais parce que vous êtes capable de le démontrer. Et là, vous atteignez la science du théorème. Et vous n'avez plus besoin de croire votre professeur. Vous n'avez plus besoin de vous fier à l'autorité de votre professeur, puisque maintenant, vous le voyez par vous-même que c'est vrai. Donc, quand on voit, on n'a plus à croire. Quand on croit, c'est qu'on ne voit pas. Et ceux qui disent « Je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois » disent une aberration. Parce que précisément, ce que l'on voit, on ne le croit pas. La différence, c'est que Thomas a vu quelque chose et il a cru autre chose. Il a vu Jésus ressuscité, bien sûr, Jésus ressuscité, mais ce qu'il a cru, c'est quelque chose qu'il ne voyait pas, c'est qu'il était Dieu. Et qu'un homme ressuscite avec ses plaies lumineux, tout ce que vous voulez, c'est voilà ce que vous pouvez dire, voilà ce que vous voyez. Mais qu'à partir de là, il pose l'acte de foi le plus extraordinaire, enfin le plus radical de tout l'évangile de Jean. Hein. Faut oublier que c'est Thomas, hein. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu, seul qui dit directement mon Dieu, pas fils de Dieu, pas mon Dieu. Et donc il y a quelque chose, à partir de ce qu'il voit, il va vers quelque chose qu'il ne voit pas. Donc bien sûr que toute foi s'appuie sur quelque chose qu'on voit, mais malgré tout, la science aussi elle-même est prise dans son principe et dans sa fin, et jusqu'à sa fin, par quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Vous savez que Aristote dit cette chose très très simple, il dit « pour apprendre, il faut d'abord croire ». Comment est-ce qu'on apprend ? Vous allez à l'école, vous écoutez un professeur, et d'abord vous commencez par croire en son autorité. Si, voyez, vous commencez à tomber dans le scientisme, c'est-à-dire, vous voyez, tout n'est que science, la foi, la confiance, tout ça, non, non, il faut avoir un soupçon à l'égard de ça. En fait, vous détruisez la possibilité d'une tradition scientifique. Et c'est la destruction de la science. Parce que personne, vous voyez, un petit enfant ne peut pas tout d'un coup savoir d'emblée réinventer lui-même toute la science. Vous voyez, tous les scientifiques aujourd'hui partent d'abord, vous voyez, d'une croyance en l'autorité de leur père et ils reçoivent des énoncés sur un mode qui est celui de la foi. On fait confiance à l'autorité. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui lisent généralement des magazines scientifiques, même si l'objet dont on parle, c'est censé être un objet scientifique, bien sûr, connu scientifiquement, mais eux, leur mode de relation à l'objet, c'est un mode qui est celui de la foi. Ceux qui lisent Science et Avenir, je ne sais pas moi, même ceux qui lisent ceux qui lisent Nature, vous savez, la revue publication scientifique. C'est tellement spécialisé que seul le scientifique qui a travaillé sur le truc dans ce domaine-là, à la limite, peut avoir un rapport vraiment scientifique à la chose. Mais sinon, les autres disent « Ah ben, on croit que le protocole a bien marché, le type a une autorité, il est reconnu par ses pairs, donc c'est vrai. » Vous êtes dans une relation de foi. Après, si vous voulez devenir vraiment scientifique, vous devez vérifier, si vous voulez. Mais un scientifique, généralement, ne vérifie pas tout ce que ses prédécesseurs on fait, sinon ce serait sans fin, il ne pourrait jamais avancer. Une science qui ne partirait pas d'une confiance en l'autorité, d'une certaine foi, vous voyez, ne pourrait plus avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc là, vous voyez, c'est dans le principe même de l'acquisition de la science, de l'apprentissage. Le deuxième point, c'est que, vous savez que la remarque que fait Pascal, la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui dépasse infiniment la raison. Autrement dit, dans la démarche même de la science, il y a un moment où on résout des problèmes, mais où on débouche sur un mystère. Et d'une certaine façon, la limite même de la science n'est pas une clôture, c'est une porte. C'est justement dans cette limite de la science, il y a une porte qui est la porte de la foi. Vous voyez, donc, vous avez vu que, ben voilà, vous arrivez, il y a un passage, bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'en rester aux sciences expérimentales, mais vous paraissez après à la science et aux sciences de type philosophique, vous arrivez, dès que vous entrez dans la réflexion sur les principes même de toute science, vous arrivez à l'idée que, voilà, il y a quelque chose, il y a une existence d'une cause première, une cause suprême de l'univers, qu'on a l'habitude d'appeler Dieu. Je dis toujours, cette chose-là, vous voyez, il suffit de pousser jusqu'au bout ce que nous disons tous les jours. Quand vous dites « la meringue de la gruyère est bonne », vous voyez, tout d'un coup naît dans votre esprit un concept, la notion de bon, et alors vous dites « mais est-ce que c'est... » Donc tout d'un coup vous avez cette idée de bon, et vous dites « mais qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est absolument bon ? » Est-ce que c'est seulement la meringue de la gruyère? Non, elle n'est pas absolument bonne. Si vous en mangez trop, en plus, ça finit mal. Donc, si vous allez jusqu'au bout, vous cherchez la source de la bonté de la meringue de la gruyère. Si vous allez au-delà, voyez, des vaches, des pâturages, de toute cette harmonie qui permet cette chose, qui est l'apparition de la meringue de la gruyère, il y a un moment où vous voyez, de manière rationnelle, vous arrivez jusqu'à un mystère, et qui est le mystère d'une cause première, cause de cet ordre-là, qui permet l'apparition de la meringue de la gruyère. Et donc jusqu'à la fin, vous voyez, dans la démarche de la raison, d'ailleurs même Kant lui-même, il dit par nature, la raison, elle dit pourquoi, et elle est forcément obligée d'arriver à un pourquoi ultime. Elle ne peut pas faire autrement. Sinon, on sort de la raison. Donc, la porte de la foi, elle s'ouvre à l'intérieur même, vous voyez, de, on pourrait dire, la demeure de la science, pour ouvrir sur une autre demeure. C'est pour ça, d'ailleurs, que quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Don Giussani, le fondateur de Communion et Libération, dit cette chose magnifique, il dit « La foi, c'est la capacité extrême de la raison ». Pas contre la raison, c'est la capacité extrême de la raison. Donc vous voyez que la foi ouvre la porte à un déploiement de la vie sociale, mais aussi la foi ouvre la porte à un déploiement de la rationalité, de la vie intellectuelle, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser. Maintenant, je reviens vraiment à la foi théologale, par-delà une modalité, je dirais, générale, commune à toutes les formes de foi, même les foi naturelles. Et je ne parlerai ici que par rapport à l'objet de la foi théologale. Et qu'est-ce que cela induit? Sur quoi est-ce, à quoi cela ouvre? D'abord, je vous rappelle que ce que disent tous les grands théologiens, même si la foi, vous voyez, son acte suppose la médiation d'articles de foi, donc d'articles qui sont composés, qui sont complexes, qui sont même extrêmement tendus, vous voyez, le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Malgré tout, à travers ces articles de foi, l'objet de foi, c'est la vérité simple de Dieu. L'objet vraiment de la foi, c'est la vérité de Dieu en tant qu'il est simple. Et donc, déjà, la première chose, c'est que dans la dynamique de la foi, et c'est là ce qu'on était déjà en train de voir à travers la modalité de la foi, comme nous sommes tournés vers celui qui est l'un, celui qui est le simple, eh bien, déjà, la foi nous ouvre à une unification, à une simplification intérieure. Vraiment, dans la foi, il va y avoir une harmonisation de toutes nos facultés, sensibles, intelligibles, et même entre la volonté, l'intelligence, dans notre rapport aux autres, dans notre... Vous voyez, ça, c'est une chose extraordinaire. La deuxième chose, c'est que la foi a pour objet Dieu, déjà en tant qu'il est créateur, et créateur de l'univers. Vous savez que la philosophie peut arriver à l'idée que tout est lié à une cause première, bien sûr, mais pas à la notion vraiment de création, au sens où l'univers aurait commencé à partir de rien. C'est pas un thème exactement philosophique. Tout vient de Dieu, mais peut-être que l'univers a duré depuis toujours. Vous voyez, ça, on ne sait pas s'il y a eu un commencement. Et puis, souvent, la philosophie a eu un problème avec la question de la matière. Est-ce que la matière, vous voyez, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas plus divines que d'autres? Est-ce que... Bon. Or, le fait de croire au Créateur nous donne cette chose qui est très profonde, c'est que tout ce qui est créé donc vient de Dieu. Et donc, les choses comme telles sont bonnes. Ça, c'est une chose incroyable. Une chose, en tant qu'elle est, elle est bonne. Et le mal n'est pas une chose. Le mal, ce n'est pas un être, c'est une privation d'être. Quand quelqu'un dit « la vie est détestable », il dit quelque chose de faux. Parce qu'en fait, il aime la vie et il sait que la vie est bonne. Mais ce qu'il déteste, c'est ce qui ruine la vie. C'est une privation. Vous voyez ? C'est un néant, ce n'est pas l'être même. Donc tout ce qui est en tant qu'il est bon. Et cela signifie aussi que la foi va donc nous pousser à l'objectivité. J'ai raconté il n'y a pas longtemps à des étudiants de théologie ici comment je suis passé de la foi à la raison, puisque avant que je devienne chrétien, je ne croyais pas, d'une certaine façon, que l'intelligence pouvait connaître le réel. Et je croyais en une certaine forme de parole qui était la parole poétique, et donc je pensais que ma vie consisterait plutôt à écrire des textes littéraires, à faire des poésies, à moduler le chant du cygne, parce que je croyais que de toute façon ce serait la disparition de l'espèce humaine après. Moduler le chant du cygne sans fin, et puis voilà. Et il y a quelque chose, c'est d'une certaine façon par la foi que j'ai retrouvé la raison. C'est-à-dire que m'a été donné le fait que ma raison est créée par Dieu, donc elle est bonne, donc je peux lui faire confiance. Je peux croire, d'une certaine façon, en la capacité de la raison à connaître le réel. Alors bien sûr, on n'a pas normalement à le croire, parce que c'est une donnée évidente, mais le problème c'est que mon intelligence avait été tellement ruinée par, vous voyez, toute une histoire de la philosophie. J'avais ces mauvais plis, vous savez, de l'athée de bonne foi, peut-être, moi en plus de mauvaise foi, je pense. Donc tout ça, il a fallu, d'une certaine façon, que je croie en Dieu. Croire en Dieu, croire au Créateur, c'est croire en celui qui est la source de toute chose, de mon intelligence et du réel, dans une fraternité complète. Et dès lors, devenir chrétien, la foi ouvre la porte d'un réalisme. Vous voyez ? La foi, en nous ordonnant à celui qui est le principe de toute chose, d'une certaine façon, nous pousse à une objectivité radicale, puisque nous observons les objets, d'une certaine façon, dans leurs racines, dans leur source. C'est pour ça que je dis toujours que la foi nous fait sortir, voilà la porte, de l'idéologie. Pourquoi ? Parce que si Dieu est créateur de toute chose, si l'être en lui-même vient de Dieu et donc est bon, alors nous n'avons pas à avoir peur du réel. N'ayons pas peur des choses. Être chrétien, ça n'est pas se réfugier derrière des énoncés idéologiques. On peut faire du catéchisme une idéologie, quelque chose qu'on brandit comme ça et dont on assomme les autres. Non. Vous voyez, parce que le catéchisme nous parle du Dieu créateur qui nous dit, regardez, vous vous rendez compte qu'il y a un commandement extraordinaire dans l'évangile, le commandement de réalisme absolu, regardez les lys des champs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, parce qu'il y a des gens, vous voyez, qui se croient chrétiens et qui n'ont jamais regardé un lys, ils n'ont jamais obéi à ce commandement majeur du Christ. Ça veut dire, regardez le réel. Regardez les plus petites choses. C'est pas ça qui va vous éloigner de Dieu. Au contraire. Si vous vous dites croyant et que votre foi, c'est de vous raccrocher à des discours, si vous n'avez pas d'objectivité, si vous ne cherchez pas l'objectivité, c'est que vous êtes un imposteur. Deuxième chose, la foi, bien sûr, nous ordonne au Christ rédempteur, à Dieu, non pas en tant qu'il est seulement créateur, mais en tant qu'il est rédempteur. Et ça, c'est une chose très importante par rapport à la question du mal. Parce que forcément, ce qui nous fait perdre confiance, ce qui nous fait douter de la raison, ce qui nous fait douter du réel, c'est l'expérience du mal. Tout d'un coup, on se dit, non, tout ça est faux, tout ça c'est... Et forcément, dans une sorte d'amertume, vous voyez, on va dire, mais non, il n'y a pas de Dieu, ou alors on va s'inventer une foi qui est une foi qui va essayer de se débarrasser de toute vulnérabilité, de tout contact avec les choses, parce que forcément, entrer en contact avec les choses, c'est s'ouvrir et devenir peut-être vulnérable. Donc, on risque de se fermer. C'est pour ça que, c'est très important, ça ne suffit pas de croire au Dieu créateur, il faut croire au Dieu rédempteur. Le même. Et donc déjà entendre la question de la rédemption. La rédemption, nous sommes rachetés, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais ça commence forcément par une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que nous sommes perdus. Enfin, on a commencé par être perdus. On a commencé par être des misérables indécrottables. C'est pour ça, les gens... Vous avez des gens qui vous disent « Oui, vous parlez de rédemption, de rachat, mais moi, j'ai pas besoin d'être racheté. » Vous voyez ? Ils sont banquiers à Goldman Sachs, ils disent « J'ai pas besoin d'être racheté. » Alors qu'on voit très bien qu'ils sont vendus. Bon, mais c'est ça qui est... C'est que l'annonce de la miséricorde nous rappelle notre misère et suppose quand même une expérience de notre misère. Alors cette expérience, nous la faisons tous les jours. Reconnaître qu'on est misérable, on peut essayer de ne pas le voir, mais voilà, c'est une expérience que nous faisons. Et cette expérience va être le principe d'une rencontre avec les autres. Je peux me vivre à partir de mes qualités et dire, voilà, bah regardez, je suis plus intelligent que les autres, je suis plus connu que les autres, j'ai plus d'autorité que les autres, etc. Mais quand je découvre ma misère fondamentale, je me dis, ben non, je suis moins, c'est sûr, moins, je suis en dessous. Je ne suis pas du tout meilleur que les autres. Et si j'ai plus reçu, comme j'en fais mauvais usage, je suis sans doute pire. Pour être digne du salut, il suffit d'être pécheur. Pour être digne de la grâce, il suffit d'être condamné. Il n'y a de grâce que pour les condamnés. Mais à ce moment-là, vous voyez, je vois que il n'est aucun homme, si pécheur, si obtus, si antichrétien même soit-il, dont je puisse dire qu'il est indigne. Oui. C'est pas possible. Si Dieu est rédempteur, voyez, eh bien, il rachète même les pécheurs. Je ne peux pas être dans une sorte de moralisme en disant, voilà, il y a ceux qui ont respecté la loi, c'est mes copains, ceux qui ne l'ont pas respecté, vous voyez, c'est les méchants. Point. Non. Même l'ennemi, voyez, Dieu veut le sauver. Si Dieu ne sauvait pas l'ennemi, les ennemis du Christ, je vois mal comment il pourrait me sauver moi-même. Donc il y a une communauté de misère, voyez, la porte de la foi nous ouvre à une communion avec le Rédempteur, mais à travers cela, avec tous les misérables. Tous les misérables. Communauté de misère. Mais cette communauté de misère, elle se fonde sur quelque chose qui est encore plus profond, qui est une communauté de vocation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'entrer dans la compassion à l'égard de la misère. Vous savez, il y a un truc que je déteste, c'est la compassion. Oui, je pense qu'il est temps de faire une critique radicale de la compassion. Parce que le but, ce n'est pas de dire « Oh, tu souffres, je souffre avec toi. » Et je me regarde d'ailleurs souffrir avec toi, regarde comme je suis bon. Je souffre. Non. La miséricorde ne consiste pas simplement à... C'est pas souffrir, parce que vous voyez, qu'est-ce que vous faites contre le mal? S'il y a une souffrance, vous ajoutez votre souffrance. À rien. Dans la compassion, ce qui est beau, c'est le con. Enfin... Non, mais c'est vrai. C'est le fait d'être avec l'autre. C'est quelque chose de positif. Et même d'ailleurs de ne pas dire, voilà, je vais te donner la solution, et ça, c'est d'être avec l'autre comme un con. Vous voyez, parce que face au mal, vraiment, on est démunis. On est livré à l'incompréhensible, mais on est ensemble. Et donc ça, c'est fondamental. C'est ce qui est vraiment premier. Et puis, il y a autre chose. C'est qu'il ne s'agit pas simplement de... Il ne faut pas se complaire dans la misère. Il s'agit quand même d'en sortir. Si vous reconnaissez votre misère et que vous y complaisez, votre misère n'est plus une misère, c'est autre chose. Ça devient, c'est super. Vous voyez ? Ça, ce serait la fausse compassion. C'est la compassion qui correspond au péché originel. Je dis toujours, le péché originel, c'est quoi ? C'est Adam qui voit sa femme qui a pris le fruit défendu. Elle dit, la pauvre, elle est tombée. Oh, la pauvre. Oh, je tombe avec toi. Au lieu de la relever... Vous voyez, il descend, mais sans jamais remonter. Vous voyez, c'est une descente sans remonter. C'est une parodie de la miséricorde. La miséricorde, c'est non seulement être avec l'autre dans sa souffrance, mais essayer que, ensemble, nous puissions être délivrés par le miséricordieux. Communauté de vocation, parce que nous sommes appelés ensemble. Et que celui que j'ai en face de moi, si pécheur soit-il, si antipathique soit-il, si j'ai la foi, je sais que Dieu veut le sauver. Je sais que Dieu veut en faire un Dieu par participation. Comme dit Jean de la Croix. Ça veut dire que celui qui a une sale gueule pour moi, celui qui est antipathique, si j'ai la foi, je dois me dire, tiens, ce type-là que je ne supporte pas, il est possible que j'aie à le voir face à face éternellement. Et en plus, ça, c'est uniquement si je suis sauvé. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que la foi ouvre la porte à la charité surnaturelle. La foi fait que j'ai l'espérance du salut, mais c'est sur cette espérance que se fonde la charité. Parce que la charité, c'est pas « je t'aime », vous voyez, bon, on se fait des caresses, on aime les petits comme on aime les toutous. On les caresse, on fait de l'aide humanitaire pour qu'ils remuent la queue, etc. Et donc, c'est pas ça. La charité se fonde sur le fait que dans l'autre, je vois un Dieu à venir. Je vois mon Dieu à venir. Parce qu'il est appelé à être Dieu par participation. Et peut-être que lui ne le voit pas du tout. Il n'a pas du tout envie de le voir. Mais justement, c'est à partir du moment où je pose ce regard sur lui comme d'un Dieu à venir que les choses peuvent se dénouer en lui. Pas simplement en lui assénant une doctrine, mais en étant dans le fond, voyez, de ce qui fonde la charité. Le fait que la charité se fonde sur le fait qu'il y a une communion dans la béatitude, hein, c'est ce que dit Thomas d'Aquin. Donc le fait que les autres sont appelés à devenir des dieux par participation, à être divinisés. Et c'est pour ça que j'entre dans cet amour radical qui fait que je vois l'autre comme mon vis-à-vis éternel. Alors bien sûr, le Rédempteur a une identité. Il va falloir que je finisse, je vais essayer de conclure. Je remarque que l'abbé Glaçon ne m'a pas encore dit qu'il fallait que je m'arrête, ce qui est extraordinaire.
Il doit lui terroriser.
Je suis pire que lui. C'est que cette rédemption se fait à travers, malgré tout, se révèle aussi le visage de Dieu. Se fait par une modalité qui est spéciale. Et en plus, va nous révéler les profondeurs de Dieu. Et je vais conclure là-dessus, en fait. Rapidement, je pourrais pas... Il faudrait réfléchir sur ces autres choses. C'est que la foi est une foi en incarnation. La rédemption se fait par le Verbe qui se fait chair et qui va jusqu'à la croix. Ce qui signifie que la foi aussi nous rappelle à notre vie charnelle. Elle ouvre la porte d'une descente beaucoup plus profonde dans notre corps et dans notre chair. Le christianisme n'est pas un spiritualisme, aimait à dire l'abbé Journet, c'est une spiritualité de l'incarnation. Si tout d'un coup, vous êtes dans des charités imaginaires, fantasmatiques, virtuelles, et que vous vous désincarnez, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de vivre la charité ici et maintenant avec ceux qui sont vos proches, voyez. Mais vous dites, ah mais bien sûr, mais quand je serai dans une meilleure société qui acceptera plus les chrétiens, je commencerai à témoigner. Et quand je serai, vous voyez, peut-être débarrassé de toutes ces charges qui m'encombrent, je commencerai peut-être à prier. Et peut-être quand je serai, voilà, sans avec tous ces gens, là, si j'étais, quand je serai missionnaire en Afrique, avec des enfants, des pauvres, voilà, tout ça, là, ce sera facile, vous voyez. Mais là, à l'ONU. Non, je ne peux pas encore. Mais si, c'est possible. Nicolas Michel pourrait vous le dire. Mais que c'est là. Je pense même à quelqu'un d'autre, hein, qui est un des plus grands spirituels de l'histoire récente, à savoir Dag Hammarskjöld, qui a écrit peut-être son journal, enfin, qui est un journal spirituel qui est absolument inouï, hein, et d'une profondeur... Alors voilà, c'est possible. Lui, il a vécu, là, en étant premier secrétaire de l'ONU, et il a vécu quelque chose qui était de l'ordre de la sainteté chrétienne. Donc ici et maintenant, dans notre chair, ce sens de la chair, c'est ce qui est lié à ce que une certaine spiritualité autrefois appelait le devoir d'État. Mais en réalité, vous voyez, c'est un mot assez atroce, je dois dire, devoir d'État. Mais en réalité, derrière ce mot, il y a le sens extrême de l'incarnation, du particulier, de l'endroit où nous sommes, et que ça passe par là. Et bien sûr, le sens de la chair, ça veut dire qu'aussi le contact avec Dieu doit être un contact charnel. C'est-à-dire avec quoi ? Avec le prochain. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois, ton frère, que tu vois, dit saint Jean. Mais aussi un contact charnel, physique avec Dieu, qui passe par le prochain, mais où Dieu vient nous toucher. Et là, bien sûr, c'est l'Eucharistie. Ce sont les sacrements. Les sacrements sont des touchés de Dieu. Encore l'abbé Journet disait des choses magnifiques là-dessus. Ce n'est pas la grâce à distance, c'est la grâce qui nous conforme le plus au Christ, parce que c'est la grâce qui apparaît sous la modalité la plus charnelle, la plus matérielle. C'est ça qui est magnifique dans les sacrements, ce contact. Et en plus, bien sûr, avec un prochain, le prêtre, qui peut nous être antipathique. Si c'était simplement moi et Dieu, ma spiritualité, mon truc, désincarnation totale. Et puis en fait, Dieu devient ce tout autre qui est en fait un fourre-tout, vous voyez, que je me fais une petite idole à ma mesure. Non. Qu'il y ait ces médiations, qu'il y ait cette incarnation, qu'il y ait la nécessité du contact avec le prochain et avec les sacrements, et avec bien sûr l'enseignement de l'Église pour passer et pour aller vers Dieu, c'est le signe justement que cet autre n'est pas simplement le non-moi que je me fabrique, que je fantasme. C'est un autre concret qui vient, qui m'interpelle. C'est autrui, avec un visage, avec une exigence, et pas le négatif que je fantasme. La transcendance fourre-tout, ce comte Sponville intitule la transcendance laïque. Enfin, dernier point, vous savez, les deux choses à croire, les deux crédibilia de la foi surnaturelle, c'est bien sûr l'incarnation, la rédemption, le Christ, mais aussi le mystère de la Trinité. Qu'est-ce que nous révèle le mystère de la Trinité ? C'est que l'unité divine n'est pas une unité de fusion, mais une unité de communion, une unité d'amour. L'amour suppose toujours que l'autre reste autre, que je ne l'absorbe pas. L'unité divine, c'est une unité infinie dans la différence infinie. Bien sûr que le Père n'est pas autre chose que le Fils, il n'est pas Aliud, mais il est Alius, il est quelqu'un d'autre. Il n'est absolument pas autre chose, il y a la même nature, mais il est absolument quelqu'un d'autre. Il y a, du côté des personnes divines, on a beaucoup parlé de la nature divine jusqu'ici, je pense, dans la théologie trinitaire, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de et on le voit bien, le développement théologique, ça devient de plus en plus une théologie des personnes divines, et donc justement de cette altérité radicale en Dieu. Une altérité qui est une altérité en plus où il y a relation à l'autre dans une union absolue, dans une unité même absolue. Mais en plus, cette unité suppose encore l'avènement d'un autre, procession. Et donc une fécondité en plus. C'est pas simplement je suis avec l'autre, nous sommes unis, c'est qu'en plus il y a une fécondité éternelle en Dieu. Et donc le mystère de la Trinité nous rappelle notre différenciation éternelle. Devenir chrétien, ça n'est pas s'aliéner. Aller vers Dieu, ça n'est pas, perdre son identité. Au contraire, c'est être constitué encore plus dans sa différence, puisque Dieu est le créateur de ma différence, de ma singularité. Et donc, que nous soyons si différents, vous voyez, c'est le signe que nous sommes créés par un Dieu Trinité. Et que nous ne cherchions pas à faire des clones catho, c'est le signe que nous avons vraiment ouvert la porte de la foi. Il faut désirer la différence de l'autre. Il faut la maintenir. Et puis, c'est pas simplement, je vous ai dit, la foi n'ouvre pas simplement au sens d'une différenciation éternelle, ça nous ouvre aussi au sens d'une fécondité éternelle. Nous ne sommes pas faits pour le bien-être. Nous ne sommes pas faits pour nous reposer en Dieu. Nous sommes faits pour être créatifs en Dieu. Au ciel, nous serons encore plus créatifs que maintenant. Mais dès maintenant, vous voyez, la foi, la porte de la foi nous ouvre à une créativité. Il n'est pas possible d'être lié au Créateur sans devenir plus créatif. Alors, je conclus. Je vous ai dit que la porte de la foi, c'était la porte du réalisme, d'un réalisme profond, d'un réalisme fécond, d'un réalisme qui avait un sens aigu de la diversité. Au cœur de la foi, ce qui est premier dans la foi, c'est pas de croire quelque chose, mais c'est de croire quelqu'un. Et vous avez vu même que dans l'acte de foi, ce qui est premier, c'est donc le rapport au témoin, à un autre. Je ne vois pas par moi-même, je vois par un autre, et donc c'est cette relation à un autre qui devient vraiment le cœur, la spécificité et le génie, si vous voulez, de la foi. Cela signifie que dans le mystère chrétien, dans la foi chrétienne, qui radicalise, si vous voulez, cette dimension de foi, je le dis souvent, mais bon, les messagers sont plus importants que le message. Et quand il y a des messagers, vous voyez, c'est que forcément il y a des interlocuteurs. Donc c'est les messagers et leurs interlocuteurs sont plus importants que le message et le fait d'adhérer explicitement au message. Si vous commencez à asséner un message de telle sorte que vous écrasez le visage de l'autre, vous n'êtes plus chrétien. Vous n'avez pas compris que ce qui était premier, c'était le messager. Ce messager qui aime chaque homme comme son frère. Si vous commencez à vouloir forcer une adhésion explicite, la récitation d'un bon petit perroquet, là encore, vous n'êtes pas chrétien. Être chrétien, c'est avoir cette foi qui est une porte qui ouvre à la demeure de la sagesse. Vous voyez, la sagesse a bâti sa maison, elle a dressé une table. Et qu'est-ce que c'est cette table ? Bien, c'est quoi ? C'est de voir fleurir autour de cette table une multitude de visages divers, singuliers. Non pas des clones, vous voyez, peut-être des clowns, sans doute, parce qu'on est tous un peu maladroits, grotesques, ridicules, mais c'est bon signe. Il faut cela, les estropiés, les ridicules. La diversité la plus grande à cette table, c'est le signe qu'on a ouvert la porte de la foi et qu'on est dans la demeure de la sagesse. Voilà, merci. C'est une bonne question. Alors, il ne faut pas confondre le mal et le malin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si je désigne le mal, de toute façon, pour pouvoir avoir une puissance, il doit s'appuyer sur le bien. Il doit s'appuyer sur l'être. Et donc c'est pour ça que, bien sûr, si le mal considéré comme tel, c'est une privation, c'est une négation, il n'y a pas... Vous savez, c'est la définition du mal par la grande philosophie réaliste, la grande théologie, à partir notamment de Saint-Augustin, c'est... la privation d'un bien dû, privatio boni debiti, c'est-à-dire vraiment le fait qu'une chose devrait être là par rapport à la nature d'un être et puis qu'elle n'est pas là, qu'il lui manque. C'est pas une simple absence, parce que, par exemple, que la pierre ne peut pas voir, elle n'est pas douée de la vue, une pierre. Mais est-ce que c'est un mal pour la pierre ? Non. C'est l'absence par rapport à ce qui devrait être là conformément à la nature d'un être. Or, il n'est pas dans la nature d'une pierre de posséder la vue. Donc, il est dans la nature de l'homme de posséder quelque chose, il est dans la nature de l'ange de posséder certaines choses, et si jamais, vous voyez, ces choses-là ne sont plus là, eh bien, il y a mal. D'accord ? Donc ça, c'est très important d'avoir une conception. Et bien sûr, si cette question vous intéresse, il y a tout un cycle de conférences, je ne sais pas si vous avez vu ici à la faculté, et je dois donner notamment une conférence sur le mal, enfin, quelle parole pour dire le mal, le 4 décembre, je crois, ici, à 18h15. Avec c'est le cours de Monsieur François-Xavier Putalin. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que fait le criminel ? Quelqu'un qui égorge son prochain. Il utilise les bras, ses mains qui ont été faites, vous savez, ces mains que nous avons qui ne sont pas des griffes, qui sont pas des, vous savez, nos mains sont pas des serres, elles sont pas faites d'abord pour étrangler. Nos mains ont une sensibilité spéciale, elles ont la capacité d'épouser toute chose, de les tenir, même une bulle de savon. Donc nos mains sont d'abord réceptives. Elles ont cette réceptivité. Voilà la nature de la main. Mais voilà que le criminel, lui, va utiliser sa main qui est faite pour accueillir. Donc il utilise quelque chose qui est du bien. Il va en détourner la vocation première et il va l'utiliser pour étrangler. Il va fabriquer avec ses mains des armes, des instruments pour détruire. Et donc vous voyez que le mal, pour être actif, bien sûr, ça ne peut pas être le néant, parce que le néant ne fait rien en lui-même. Mais c'est le pouvoir d'introduire du néant en soi-même, en néantant, en déviant, en brisant, vous voyez, l'élan propre de sa nature. C'est pour ça que, de toute façon, vous voyez, le criminel s'appuie toujours sur des choses qui sont bonnes pour... C'était un pur néant, il ne pourrait rien faire. Pour pouvoir même faire le mal. Mais il dévie ses forces. Vous voyez, il détruit d'une certaine façon l'élan propre de cette force, de ce don qui lui a été fait, pour l'orienter vers quelque chose qui est destructeur. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir, vous voyez, cette fascination à l'égard du criminel. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on admire le tueur en série ? Parfois, les adolescents aiment ça, ils disent, mais quand même... Bon. Est-ce qu'on admire le fait qu'il étrangle, découpe en morceaux quelqu'un avec une sorte de bassesse atroce, etc. ? Non, c'est pas ça. Même ce qu'on admire en lui, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui apparaît comme un bon. Ben, par exemple, comme bon, c'est-à-dire le fait qu'il arrive à déjouer l'enquête de police. Le fait qu'il a l'air de se situer au-dessus des lois. Le fait qu'il a l'air d'être un homme à part, donc sacré d'une certaine façon, etc. Donc c'est encore des choses bonnes, mais qui, malgré tout, vous voyez, ont été renversées, déviées, mises au service de quelque chose, qui est le néant, qui est le règne de la ruine. Vous comprenez ? Donc bien sûr que quand on voit, vous voyez, on se dit, le mal dans le monde... est lié à des structures qui sont extrêmement intelligentes. C'est pas possible que le mal, vous voyez, ces forces de destruction, viennent simplement de la bêtise individuelle. Bien sûr que nous sommes bêtes, bien sûr que, mais ça suffit pas. Vous voyez des organisations qui dépassent ce qu'ils font. Et je dis toujours ce que les individus font. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui ferme le plus, par exemple, la possibilité d'atteindre la vérité quant à l'accueil de la vie. C'est pas simplement qu'il y ait un camp de l'avortement, c'est aussi qu'il y ait en face, voyez, un camp qui se dit soi-disant pro-life, mais qui est d'une violence extrême. Et souvent, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte d'intelligence qui préside à l'organisation de structures de péché, voyez, où il y a des individus où il y a deux, trois camps, quatre camps, cinq camps qui s'opposent. Donc s'ils s'opposent, ils ne se sont pas concertés. Mais en même temps, c'est la seule manière de faire un mal radical. Parce que dès que vous dénoncez l'erreur de l'autre, vous tombez dans une autre erreur, etc. Et donc, ça c'était une chose. Hein. On sent qu'il y a une intelligence déviée, déviante, néantisée à cause de sa déviance, qui a détourné l'élan, qui est celle justement d'aller vers Dieu, de s'unir à Dieu, de voir les choses comme Dieu. Mais, vous voyez, en détournant cet élan... Bah, elle crée une destruction. C'est pour ça que, bien sûr, que le démon existe, les personnes mauvaises existent, mais le mal en lui-même est négation. Alors, votre question est bien sûr est d'une très grande pertinence. D'abord parce que vous pointez ce qui est une faiblesse dans l'articulation de mon discours. Enfin, surtout comme vous l'avez entendu, c'est-à-dire sur un mode. Si mon discours était un discours d'apologétique, vous voyez, ça poserait problème. Exactement ce passage entre la deuxième et la troisième partie, vous avez parfaitement raison. Donc là-dessus, ça veut dire que vous avez bien entendu. et qu'en plus, moi-même, j'ai une sorte de défaut qui est majeur, qui est le... Parce que quand je fais de la théologie, je le fais comme philosophe. Et que souvent, le décrochage, disons, du naturel au surnaturel, la différence, je dirais, qu'il y a vraiment d'ordre, se perçoit beaucoup moins. Et que justement, mes transitions, là, pour le coup, peuvent ne pas être très bonnes. Voilà. Mais je tiens à dire une chose. Malgré tout, mon exposé n'était pas un exposé apologétique. Le but, c'était pas de dire comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. C'était de dire qu'est-ce qu'implique la foi. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'était plutôt les effets de la foi et non pas l'accès à la foi. Donc c'était pas vraiment mon objet. Dans ce que vous dites, malgré tout, il y a quelque chose. D'une part, ce que vous dites, c'est que il est nécessaire de prêcher le Christ. C'est pas simplement à partir d'une élucidation intérieure que l'on va arriver à un acte de foi. Il faut rencontrer des témoins. Et donc, il faut forcément qu'il y ait des personnes qui prêchent le Christ. Ça ne suffira pas. Si. D'accord ? En plus, accueillir pleinement cette prédication suppose qu'on laisse faire aussi le travail de la grâce en nous. Donc, il y a quelque chose qui est surnaturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à la foi au terme d'une simple dissertation philosophique. Il y a un moment, un saut. Regardez l'histoire de Saint Paul. Saint Paul, est-ce qu'on peut dire que Paul, le moment où il bascule, c'est le fruit d'une lente maturation, vous voyez, puis tout d'un coup il est passé d'une étape à l'autre, vous voyez, dans son livre d'apologétique, puis tout d'un coup il a dit « Ah bon, ben, ça y est, c'est le Christ ». Non. Il y a un moment de rupture complète. Il bascule complètement, il est renversé, il tombe de son cheval. Alors, bien sûr, chez certains, il y aura quelque chose de plus progressif, mais il y a un moment de rupture. Il y a une intervention verticale, et ça n'est qu'après coup. Mais ça ne veut pas dire qu'il vit. Du point de vue existentiel, il y a une rupture. Puis tout d'un coup, une fois que vous avez la foi et que vous faites un regard rétrospectif, ben Saint Paul dit « mais c'est dans la parfaite continuité ». Finalement, le Christ, c'est celui qui réalise l'alliance, la promesse, les promesses faites à Israël, à Moïse, etc. Donc c'est dans un second temps que rétrospectivement, on se dit « mais c'est dans une continuité ». Mais il faut faire attention que existentiellement, il y a un moment de rupture. Alors, ce moment de rupture, la conversation ne peut qu'y disposer, mais ne peut absolument pas le provoquer. Elle peut y disposer par ce qu'on pourrait appeler une vérification, si je reprends un thème de Don Giussani. Ça veut dire quoi, vérification ? Ça veut dire que, bon, bien sûr, il y a en toi une foi naturelle, mais est-ce que la pierre va te sauver ? Est-ce que, comme on fait à la Sainte-Baume, certaines personnes qui embrassent les arbres, là... Vous voyez, il y a Marie-Madeleine qui est là, mais eux, ils viennent embrasser les arbres dans la forêt de la Sainte-Baume, et ils disent, je prends l'énergie des arbres, voilà, j'ai confiance en un mystère, effectivement, qui dépasse ma raison, mais c'est l'énergie des arbres. Bon, on peut quand même, là, utiliser encore la raison, montrer qu'on n'a pas encore été vraiment au vrai mystère, là, parce qu'on pourrait réfléchir sur ce qu'est un arbre, quand même. Et puis tu peux dire, c'est le voyage que je fais chaque année, ou peut-être même une chose qui est encore plus noble, c'est ma femme et mes enfants. Voilà, c'est... À ce moment-là, vous pouvez faire un travail de vérification. Es-tu sûr que ta femme va te procurer le bonheur ? Si tu le crois, il y a un moment où tu vas l'égorger. Parce qu'il est évident qu'elle n'est pas Dieu. Ou tu vas aller vers une autre après. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire. Est-ce que tu crois que tes enfants... Bien sûr que faire des enfants, avoir des enfants, les accueillir plutôt, c'est faire confiance en la vie. Mais alors, il faudrait élucider cette confiance. Parce qu'on pourrait lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as confiance en la vie ? Après tout, tes enfants, ils vont crever. Ils vont souffrir, ils vont mourir. Ben, c'est un mauvais calcul. Vous comprenez ? Il y a quelque chose... Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on est dans le discours aujourd'hui, on a un discours gentillet. Et même, on a parfois, quand on est chrétien, un discours défensif. Ah, nous défendons la famille, nous défendons... Mais non, on est toujours en position d'attaquant. Il faut toujours comprendre ça. Et corrosive. C'est-à-dire que, destruction, la vérification, c'est quelque chose qui vient aussi détruire les illusions. Et les gens, on peut très bien leur montrer que c'est une illusion. Vous savez, dans les films athées, je préfère ceux qui finissent très mal, avec un cri, etc., plutôt que ceux, vous voyez, la comédie romantique à l'américaine. Tout d'un coup, ils s'aiment, bah, ils truc, et on nous fait croire que ça va tenir et que ça va être le bonheur, quoi. Elle et moi. Et c'est parce que les films nous font croire à ça qu'il y a tant de divorces. Parce qu'à la fin, on se rend compte que le prince charmant est un pauvre type.